Le débat africain. Alain Foucault.
Est-ce que Bamako est là? Il représente l'immense majorité de la population. Plus de 65%. Une impressionnante force de pression que tout le monde s'emploie à maîtriser. Leur mobilisation est même parvenue il y a peu à renverser le pouvoir élu. Mais s'ils manifestent globalement un réel intérêt pour la chose politique, notamment sur les réseaux sociaux, où ils expriment souvent avec passion leur point de vue par un sévère rejet de leurs gouvernants, ils restent pourtant très minoritaires, voire inexistants, dans les partis et mouvements politiques traditionnels. Ce qui explique probablement le décalage qui existe entre les dirigeants et la grande majorité de la population. Qu'est-ce qui justifie l'absence des jeunes dans les différents cercles et appareils du pouvoir? Comment rajeunir la classe politique malienne? Bonjour à tous et bienvenue à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, sur la colline du savoir. Nous sommes dans la capitale malienne, en marge du forum de Bamako qui se tient en présentiel cette année, devant un public de jeunes venus en masse et particulièrement chaud, comme vous pouvez l'entendre. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, Madame Adam Diko, directrice exécutive de l'HCAD, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, qui est présente dans de nombreuses communes du pays, avec plus de 30 000 jeunes. Bonjour Madame Diko.
Bonjour.
Merci d'être là, sous vos applaudissements. Notre deuxième invité, Abdoulaye Guindo, président de la communauté des blogueurs du Mali, Donny Blog, et coordinateur de la plateforme Ben Béré. Abdoulaye Guindo a lancé avec la communauté de blogueurs le hashtag Ma Transition, le but étant de faire que les jeunes qui ont été à l'origine du dernier coup d'État s'approprient cette transition. Bonjour Abdoulaye Guindo.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Je vous en prie. Notre troisième invité est un homme politique très connu ici et à l'international. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali et président du parti Yelema. Bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour Alain, bonjour.
Chaque jour, on les entend critiquer, dénoncer la corruption, l'incapacité de leurs gouvernants, mais dans le même temps, on ne les voit pas se lancer dans la chose politique pour changer la donne. Comment ça s'explique? Les jeunes sont-ils prompts seulement à critiquer? J'ai envie de poser la question à Madame Diko, qui les fréquente régulièrement.
Merci beaucoup pour la question et mon bonjour à tous les étudiants d'ici, et qui sont aussi mes camarades, parce que je suis passée par là. Et pour répondre à la question, notamment la faible représentativité des jeunes, non seulement dans les instances politiques, mais dans les instances de prise de décision. Cela s'explique par quoi? Cela s'explique par l'écosystème politique du pays. Nous avons un écosystème qui écarte les jeunes, qui exclut les jeunes. Vous l'avez rappelé, le Mali, c'est plus de 70% qui a moins de 35 ans. Mais quand vous prenez les institutions de la République, 90% de ces institutions sont dirigées par des gens qui ont plus de 60 ans. Donc déjà, il y a une inadéquation entre ceux qui dirigent et ceux qui doivent être dirigés.
Mais la faute à qui? Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les jeunes se désintéressent de la chose politique?
Alors non, pas du tout. Au contraire, les jeunes veulent s'intéresser, les jeunes veulent s'impliquer. Mais comme je l'ai dit, on a mis des systèmes qui freinent l'épanouissement des jeunes au niveau des instances de prise de décision. Allons seulement au niveau communal. Vous savez qu'au niveau communal, vous avez les PDSEC, les programmes de développement économique culturel, qui définissent la priorité de la commune. Mais l'élaboration de ces PDSEC, les jeunes sont exclus. Les jeunes ne sont pas associés. Souvent, certains sont associés au nom des jeunes, mais qui ne sont pas des jeunes.
Mais est-ce qu'on va aller chercher les jeunes? Est-ce que les jeunes ne doivent pas eux-mêmes se dire, nous, on veut être dedans? J'ai envie, puisque nous sommes devant des centaines de jeunes, d'en prendre un ou deux au hasard pour savoir pourquoi et s'ils s'intéressent à la politique. Là, par exemple, comment vous vous appelez?
Lamine Traoré.
Lamine Traoré.
Oui.
Alors, Lamine, est-ce que ça vous intéresse, la chose politique? Est-ce que vous vous êtes dit, moi aussi, je veux y participer, ou vous regardez sans vous disant, comme la plupart des jeunes ici, c'est une histoire de voleurs?
Bien sûr que je suis trop intéressé par la politique, mais malheureusement, comme Madame l'a si bien dit, il y a toujours des barrières qui freinent la jeunesse à participer à la vie politique.
Mais c'est quoi ces barrières? Est-ce que vous vous êtes présenté ou on vous a chassé?
Bon, même si vous vous êtes présenté, je me suis bien présenté. Lorsque les jeunes partent, par exemple, dans une partie politique, il y a toujours des vieux qui sont là. C'est comme une chaîne, un cercle. Donc, tant que vous n'avez pas des bras lourds, des tontons déjà bien placés, vous serez écarté au fil du temps.
Donc, il vaut mieux avoir des tontons à l'intérieur. Alors, je vais essayer de trouver un autre qui va peut-être nous proposer. Vous, c'est comment?
Moi, c'est Salih Maïga. Concernant la jeunesse qui n'est pas impliquée, ça, c'est dû aux vieux. Par exemple, là où tu pars, tu trouveras que les vieux ont occupé tous les postes. Même pour te présenter maintenant, par exemple, tes jeunes. Même commission de la jeunesse, si tu pars dans certains partis politiques, je dis bien, tu trouveras que c'est les vieux qui occupent cette poste.
Oui, mais dans le même temps, est-ce que toi, tu y as été déjà? Tu as entendu, tu n'y es pas allé?
Si, moi, j'y étais. Moi, je suis membre hier dit. Et là-bas, je vais dire qu'on ne donne pas la place aux jeunes.
On ne donne pas la place aux jeunes. Monsieur le Premier ministre, quand vous entendez ça, vous êtes parmi ceux qu'on considère comme les jeunes aujourd'hui dans la politique malienne. Pourtant, vous avez occupé une grande fonction, celle de Premier ministre.
Oui. Alors, moi, je voudrais d'abord commencer par le fait que dans notre pays, culturellement, nous sommes assez gérontocratiques. Ce n'est pas seulement dans la politique, c'est un peu dans tous les domaines. Moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans et il y a encore beaucoup d'acteurs qui pensent que moi-même, je suis trop jeune pour essayer d'être président de la République, moi-même. Donc, pour dire qu'on a d'abord culturellement un fonds gérontocratique important qu'il faut noter.
Ensuite, mais pourtant, vous avez réussi à être Premier ministre.
Oui, exactement. Je suis arrivé à être maire, député, ministre et Premier ministre. Mais il y a encore des gens qui pensent que je suis trop jeune. Donc, imaginez-vous ceux qui ont 30 ans ou qui ont 20 ans. Il y a ce premier aspect. Il y a un second aspect qui est vrai. C'est que notre système, de manière générale, système politique, système étatique, encourage plutôt la vieillesse que la jeunesse. Par exemple, quand il y a des recrutements au niveau de l'État, et à chaque fois qu'il y a deux candidats qui ont le même niveau, les textes même disent qu'il faut prendre le plus âgé. Donc le système lui-même, il est assez gérontocratique. Et après, la pratique politique dans nos acteurs, dans nos organisations, c'est une pratique qui ne privilégie pas l'alternance. Par exemple, vous avez les mêmes présidents de partis politiques de 91 à aujourd'hui. Moi, j'ai été président de Yelema, j'ai fait quelques temps, ensuite j'ai quitté, quelqu'un d'autre à ma place. Mais ça, c'est une exception.
C'est une exception. Abdoulaye Guindo, vous avez créé le hashtag Ma Transition. Parce que vous estimez que cette transition-là, les jeunes doivent la récupérer puisque c'est eux qui étaient dans la rue en août dernier pour renverser le régime. Qu'est-ce qui explique qu'on ait autant de mal à faire rentrer les jeunes en politique? Là, à l'instant, le Premier ministre disait qu'on est dans une tradition gérontocratique. Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que vous regardez la plupart du temps par la fenêtre les politiques?
Non, moi, je pense que les jeunes au Mali s'impliquent beaucoup dans la politique. Je vais aller avec des exemples concrets. Je ne vais pas reprendre ce que mes prédécesseurs ont dit. Lorsque un parti organise un congrès, la salle est à majorité remplie que de jeunes. Et même les délégués qui doivent mettre en place le bureau et en majorité représenté des jeunes. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans les coulisses, il y a une pression des âgés sur les jeunes pour qu'ils laissent la place aux doyens. Vous allez voir, il est rare de voir un parti qui, lors de son contrat constitutif, fait un vote poste par poste. On met en place un semblant de comité d'investiture, on fait des arrangements dans les coulisses où on écarte les jeunes, et ensuite on vient lire un bureau qui est composé majoritairement de personnes âgées. On dit non, c'est eux qui financent le parti, il faut encore leur donner la chance d'être à leur poste. Parce que souvent dans les partis, quand vous occupez un poste, ça vous permet d'avoir plus de chances d'occuper certaines responsabilités. Donc comme ça, dans les coulisses, les jeunes sont écartés. On dit non, ce sont ces doyens qui vous entretiennent. Mieux vous restez à l'écart, ne faites pas des bruits, votre tour va arriver. Donc chaque année, les jeunes sont mis à l'écart. Sinon, les jeunes prennent
mais est-ce que ça n'a pas suscité chez les jeunes un désintérêt pour la chose politique? Est-ce que du coup, les jeunes ne s'en éloignent pas finalement parce qu'ils se disent que ça n'appartient qu'aux vieux, Adam Diko?
Alors non, mais il est important de rappeler quelque chose qui se dit très souvent au Mali et même un peu partout en Afrique. C'est qu'on dit toujours aux jeunes que vous êtes l'avenir de la nation. Donc, à force de nous répéter que nous sommes l'avenir, nous nous disons toujours que ce n'est pas encore notre tour. Nous sommes l'avenir. Sauf que nulle part dans le monde, on viendra dire à quelqu'un, lève-toi, c'est aujourd'hui l'avenir. Donc déjà, cette phrase-là, ça écarte les jeunes et ça déresponsabilise les jeunes, au fait. De répéter tout le temps, vous êtes l'avenir du pays, vous êtes l'avenir du pays. Ça, c'est un premier facteur qu'il faut tenir en compte. L'autre facteur qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les jeunes sont désintéressés, mais les jeunes ont peur. Et cette peur-là, c'est des adultes ou les acteurs politiques qui les créent. On complique tellement la chose qu'on ne cesse de répéter aux jeunes, vous n'avez pas d'expérience, vous êtes mal formés, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous ne pourrez pas. Tellement qu'on nous a répété ça, que nous-mêmes, même quand tu veux nous confier des postes de responsabilité, nous-mêmes on dit que, mais est-ce que nous on a de l'expérience? Est-ce que nous-mêmes on est bien formés? Aujourd'hui, souvent, quand tu fais la promotion des jeunes, c'est des jeunes eux-mêmes qui se disent « Ah, nous les jeunes, on va faire pire parce que nous, on est mal formés, on n'a pas d'expérience. » Mais est-ce que ceux qui ne nous ont pas bien formés, qui ne nous ont pas donné de l'expérience, est-ce qu'on doit continuer avec ces mêmes personnes-là pour que non seulement ils ont gâté nous notre éducation, mais de gâter l'éducation des autres? Les jeunes ne sont pas désintéressés, les jeunes s'impliquent, mais il y a des barrières. Ces barrières, le premier facteur, c'est quoi? Monsieur le Premier ministre est revenu là-dessus. La non-alternance au sein des partis politiques. Moi, je dirais même que
j'ai envie de dire, on n'a jamais vu donner le pouvoir.
Oui, non.
Il faut qu'on sorte peut-être de cette illusion.
Non, il ne s'agit pas de donner. Vous savez, on dit on ne donne pas, il faut arracher.
Oui.
Mais Alain Foucault, tu es d'accord avec moi que pour que je puisse arracher ton chapeau, il faut que je sois proche de toi. Si tu te mets de l'autre bout et tu me mets là et tu me dis, Adam, je ne te donne pas, il faut arracher.
Oui, mais peut-être qu'il faut vous rapprocher.
Oui, mais
peut-être qu'il faut vous rapprocher.
C'est ça qui est fermé, au fait. Ce sont ces barrières-là qui sont mises pour ne même pas permettre aux jeunes de s'approcher, à plus forte raison d'arracher. L'autre aspect qui est important, ça, c'est le poids de l'argent dans notre politique. Aujourd'hui, vous allez dire à un jeune que, mais pourquoi vous ne vous impliquez pas dans la politique? Pourquoi vous ne créez pas votre parti politique? Mais il crée son parti politique, mais il n'a aucune chance de pouvoir être même sur la liste, à plus forte raison, être élu. Le poids de l'argent a fait que les jeunes sont écartés, les femmes sont écartées.
On va en parler du poids de l'argent. Mais j'ai envie de revenir. Je vois, Abdoulaye voulait réagir.
On reviendra sur le poids de l'argent.
Sur le poids de l'argent.
Okay.
Mais j'ai envie de poser la question à M. le Premier ministre Moussa Mara. Vous avez pratiqué cette politique-là. Vous êtes à l'intérieur. Est-ce que la jeunesse est un handicap pour gérer les États? Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge où il faut venir en politique et où avant on est inapte?
Non, la jeunesse n'est pas un handicap, au contraire. Au contraire, la jeunesse est synonyme d'énergie. Elle est synonyme aussi quelquefois d'idéologie, d'ambition. Et si on organise le système pour que les jeunes puissent arriver tôt aux responsabilités, je pense qu'on peut faire des merveilles. Il y a des efforts à faire. Adam a raison, ce n'est pas seulement les jeunes qui doivent tout faire. Si on demande aux jeunes de tout faire, ils n'y arriveront jamais. Il faut que nous créions les conditions, que nous fassions un certain nombre de réformes pour rendre le système un peu plus accessible aux
vous
jeunes.
Vous voyez ce vieux-là dire on va s'écarter un peu, faire des réformes pour qu'on nous chasse?
C'est difficile, mais il y a certains vieux qui, je pense, sont ouverts à cela. Et il faut que les jeunes fassent preuve d'intelligence et d'agilité pour convaincre. Ceci est
mais est-ce qu'il n'y a pas un parcours à suivre
pour y arriver?
Est-ce qu'il n'y a pas un parcours à suivre? Est-ce que le jeune doit arriver, on lui donne tout de suite une fonction?
Non.
Il doit faire ses classes, non?
Je suis d'accord avec toi que on ne doit pas prendre quelqu'un aussi parce qu'il est simplement jeune. Il faut avoir des aptitudes, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir un parcours. Mais on a beaucoup de jeunes qui ont ces aptitudes, qui ont ces expériences et qui ont ces parcours, mais qui n'y arrivent pas parce qu'il y a des barrières qui sont créées pour qu'ils n'y arrivent pas. Ce sont ces jeunes que nous devons pousser afin qu'eux, ils créent un effet d'entraînement et ils ouvrent un peu les portes pour d'autres jeunes. Cela est possible. Moi, j'ai eu la chance d'exercer des responsabilités assez tôt. Je suis dans un parti qui est constitué à 90% de jeunes avec des niveaux de responsabilité importants. Il y a d'autres qui sont dans cette direction. Je pense que ce sont des initiatives comme ça que nous devons accompagner et soutenir pour qu'il y ait plus de place dans la jeunesse, dans nos pouvoirs. Je pense que avoir de l'énergie aujourd'hui, c'est ce qui est bien. Quelqu'un qui a 70 ans, il ne peut pas travailler plus de 5 heures par jour. Pour gérer un pays comme le Mali, il faut travailler 18 heures par jour et 20 heures par jour. Généralement, ce sont les jeunes qui sont capables de faire ça. Donc, ça milite pour que les jeunes soient au poste de responsabilité.
Ça veut dire qu'il faut prendre votre destin en main. Abdoulaye Guindo, vous avez le hashtag Ma Transition, qui est une manière de faire qu'on ne vole pas leur pouvoir, cette transition, aux jeunes qui ont fait la révolution. On est souvent surpris lorsqu'on dit les jeunes descendaient dans la rue, ils sont tous là, mais lorsque ça se décide, ils ne sont plus là. Est-ce parce qu'ils n'ont pas l'expérience? Est-ce parce qu'ils ne croient pas aux hommes politiques et qu'ils se disent qu'on va s'en éloigner?
Bon, moi, je pense que y a le manque de confiance vis-à-vis des hommes politiques. Mais il y a aussi un problème au niveau des jeunes qu'il faut régler. Les jeunes sont dans ce fatalisme qui pensent qu'ils ne peuvent pas prendre leur destin en main. Je me rappelle, après ce hashtag, il y a eu une retraite avec les jeunes de certains partis politiques. Moi, j'ai dit clairement aux jeunes, vous êtes majoritaires dans les partis. C'est à vous de prendre votre destin en main et de vous imposer. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont tellement dans ce fatalisme que certains ont dit, pour régler le problème de l'implication des jeunes dans les partis, il faut aller vers une loi sur le quota comme l'article 052. Tu vois, des jeunes qui propose une loi pour imposer un quota aux partis. Donc, ils se sentent incapables eux-mêmes de pouvoir se battre pour s'imposer, jusqu'ils vont à la proposition d'une loi qui imposerait un quota. Voilà. Je dis non, vous êtes nombreux dans les partis, c'est à vous de vous imposer, de prendre votre destin en main. Et comme le Premier ministre Mara l'a dit, c'est vrai que vous n'allez pas tout prendre, mais vous pouvez vous-même imposer un quota dans toutes les instances des partis politiques.
Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire des initiatives comme celle d'Adam Dicko qui réunit dans les communes? Est-ce que ça ne doit pas commencer au plus bas, c'est-à-dire dans les institutions qui sont tout en bas, pour que les gens s'impliquent dans la gestion des choses proximaires?
Oui, effectivement. Vous savez, au Mali, vous pouvez faire tout votre cursus scolaire sans pour autant apprendre sur le fonctionnement des institutions de la République. Ni au niveau des collectivités, ni au niveau étatique, on ne vous explique nulle part. Ceux qui sont ici dans la salle peuvent le témoigner si on explique ici c'est quoi le travail des collectivités territoriales.
On ne vous l'explique pas, pourtant vous êtes dans une faculté de droit.
Oui, mais on ne l'explique pas. Non, nulle part. Nulle part, on ne parle du fonctionnement de ces collectivités. Donc, du coup, on n'encourage même pas cette envie de s'engager dans la vie publique et dans la vie politique. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'on a tendance à limiter la vie publique et la vie politique aux acteurs politiques. Pour un jeune, s'engager dans des questions de gouvernance ou de participation citoyenne, c'est un problème des politiciens. Ce n'est pas lui son problème. Parce qu'on ne lui a pas enseigné, il ne sait même pas c'est quoi, moi, mon implication dans la chose publique.
Oui, donc, mais est-ce que le danger n'est pas ce que vous faites par ailleurs? Oui. C'est-à-dire, vous avez peut-être trouvé la solution. Est-ce que la difficulté ne vient pas souvent du fait que lorsqu'on parle politique, on voit déjà des ministres, des députés et des présidents de la République et qu'on oublie les communes, par exemple, les circonscriptions administratives qui sont plus proches? Est-ce que ça ne vient pas de là, monsieur le Premier ministre aussi?
Mais c'est vrai, parce que nous sommes un pays comme la France qui est centralisé. Le pouvoir est compris par le peuple comme le pouvoir d'État. Le pouvoir des collectivités territoriales, on n'en parle pas. Absolument, ça ne nous intéresse pas. Alors que les collectivités territoriales sont le creuset de la citoyenneté. Et c'est pourquoi il faut encourager des initiatives comme ce que Adam est en train de faire. Amener les jeunes à s'intéresser aux questions publiques à partir du quartier, à partir de la ville. Et c'est là où on va construire une citoyenneté qui va ensuite être utile politiquement. Mais je voulais insister sur un petit élément, Alain, par rapport aux partis. Je dis ici aux jeunes dans la salle, quand vous allez dans les partis, les responsables ont tendance à vous dire d'aller militer dans le mouvement des jeunes. Et vous-même, vous êtes content, vous allez aller là-bas. Mais c'est un ghetto. C'est pour vous mettre entre vous. Et là, on fait la fête, on s'amuse, mais quand il y a les décisions, c'est jamais pris au niveau du mouvement des jeunes. Donc, allez peut-être au mouvement des jeunes, mais demandez à ce qu'on vous mette aussi au niveau du bureau national, le bureau exécutif. C'est là où les décisions se prennent.
J'espère que les jeunes ont entendu ça.
Uniquement dans le mouvement des jeunes. C'est très important.
Alors, il y a peut-être aussi le fait qu'on a créé un autre univers dans lequel s'expriment les jeunes. C'est peut-être ce qui fait qu'ils se disent on va faire la politique en marge des partis politiques. J'ai ce sentiment-là en regardant un peu hashtag ma transition, non? Est-ce que les jeunes ne finissent pas par se dire on va faire notre politique à part en allant sur les réseaux sociaux?
Oui, bien sûr, parce qu'au Mali, surtout dans le contexte malien, les jeunes ont compris que via les médias traditionnels, ils n'arrivent plus à se faire entendre. Donc, ils se sont retrouvés sur le créneau des réseaux sociaux. Là-bas, ils arrivent à vomir tout ce qu'ils pensent des hommes politiques. Ils arrivent à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent de la gestion. Et le drame, c'est que ça reste après sur les réseaux sociaux. Nous, avec notre communauté, on tente de faire le lien entre les réseaux sociaux.
On va en parler dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans la seconde partie du débat africain. On va évoquer les réseaux sociaux dans lesquels les jeunes sont très actifs, mais également les circonscriptions administratives où ils s'investissent de plus en plus. Et puis votre initiative, Madame Dicko. On en reparle juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute et à très vite. On est toujours à Bamako et on se retrouvera toujours à Bamako. Vous êtes là? On se retrouve tout de suite.
Le débat africain, Alain Foucault.
Bamako est là?
Oui.
Bamako est là?
Oui.
Si le pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, bien que démocratiquement élu, est tombé en août 2020 dernier, c'est parce qu'on a su les mobiliser et les faire descendre dans la rue. Chaque jour, ils crient leur rejet, leur dégoût, leur colère vis-à-vis de la classe politique qu'ils jugent à tort ou à raison obsolète et décalée de leur réalité. Ils disent s'inquiéter pour leur avenir. Mais dans le même temps, on ne les voit pas beaucoup s'engager en politique. Pourtant, ils savent quel changement ils souhaitent pour leur pays. Devant les errements de leurs dirigeants, ils veulent prendre leur destin en main. Mais ils ne sont presque pas représentés dans les organes et partis qui dirigent. Certains, dans quelques régions, ont même carrément préféré rejoindre des mouvements terroristes pour combattre leur propre pays. Comment rajeunir la classe politique malienne? Comment faire entrer cette majorité, cette jeunesse particulièrement engagée dans la gestion de la cité? Comment peuvent-ils se faire leur place dans les appareils du pays d'Afrique de l'Ouest qui compte plus de formations politiques? Alors, la question est posée devant plusieurs jeunes ici, devant une centaine de jeunes réunis dans cet amphithéâtre. Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche en public à Bamako, à l'occasion du forum de Bamako, la 21e édition, cadre de réflexion sur les grands sujets de société continentaux. Nous sommes à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, sur la colline du savoir, avec un public de jeunes particulièrement chaud, comme vous pouvez l'entendre. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, Madame Adam Diko, directrice exécutive de l'HCAD, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, qui est présente dans de nombreuses communes du pays, avec plus de 30 000 jeunes. Notre deuxième invité est Abdoulaye Gendo, président de la communauté des blogueurs du Mali, Doniblog, et coordinateur de la plateforme Benberé. Abdoulaye Gendo a lancé avec la communauté des blogueurs le hashtag MaTransition. Le but étant de faire que les jeunes qui ont été à l'origine du dernier coup d'État s'approprient cette transition. Notre troisième invité est un homme politique bien connu, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali et président du parti Yelima. Je vous demande d'applaudir nos invités, s'il vous plaît. Nous avons fini la première partie de cette émission en évoquant la plateforme que sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux où les jeunes s'expriment beaucoup. Mais est-ce qu'on peut changer quoi que ce soit en s'exprimant seulement sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ne devraient pas en même temps rejoindre les partis politiques? Abdoulaye Gendo.
Bien, je pense que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes maliens arrivent à changer des choses, même si ce n'est pas tout. Parce qu'il ne se passe pas de jour qu'à travers un plaidoyer mené sur les réseaux sociaux, les autorités arrivent à corriger certaines injustices, certaines insuffisances. Mais ça ne suffit pas, parce que les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Donc il faut faire le lien entre les réseaux sociaux et la réalité du terrain. Voilà pourquoi nous, on travaille à ce que les jeunes lient réseaux sociaux et réalité du terrain. Sortir, par exemple, quand il y a un mouvement d'humeur, par exemple, tout de suite, on a organisé une série de manifestations contre les délaissages. Il y a 2 millions de jeunes qui reprennent l'invitation à manifester, mais le jour de la manifestation, il n'y a que 10-15 personnes. Donc, il y a la difficulté à lier l'activité sur le terrain et les réseaux sociaux.
C'est peut-être pour ça que ça fait rire les hommes politiques, parce qu'ils vous disent, ah, ceux-là, c'est des politiques des réseaux sociaux, les célébraires là-bas.
Non, au fait, ils le disent, mais ils savent, ils connaissent un peu le poids des réseaux sociaux. Ils prennent en compte les récriminations sur les réseaux sociaux. Mais après, il n'y a pas d'action sur le terrain. Avec la chute d'Ibeka, le M5 l'a reçu. Ils ont su lier mécontentement sur les réseaux sociaux et mécontentement sur le terrain. Parce que chaque fois qu'ils invitaient les jeunes à sortir, ils sortaient massivement pour demander le départ. Et c'est dans ce cadre qu'on a lancé même ce hashtag pour prévenir quelque chose. Ce débat sur l'implication des jeunes, on s'est dit, lorsque le pouvoir va tomber, les jeunes ne seront pas écoutés. Ils vont juste s'organiser entre hommes politiques.
Mais est-ce que vous êtes écouté aujourd'hui? Parce que le hashtag MaTransition, ça marche plutôt bien. Il est très, 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 très actif. Est-ce que les hommes politiques viennent vers vous? Ou est-ce que vous êtes allé voir les hommes politiques pour dire, nous pesons, nous aussi, prenez en compte nos attentes?
Bon, nous sommes allés vers les hommes politiques. C'est l'occasion pour moi de féliciter Monsieur le Premier ministre présent. Notre communauté organise souvent des débats physiques au cours desquels on invite les hommes politiques. On les met en face des jeunes, ils répondent aux questions. Il est le rare homme politique qui répond à nos invitations. Et le débat,
c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui.
Voilà, et le débat, il est ensuite repris sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse toucher ces autorités qui ne sont pas venues. On voit qu'ils prennent en compte nos aspirations parce qu'aujourd'hui, notre communauté est membre de beaucoup d'organisations étatiques qui discutent sur les réformes à mettre en place. Donc nous, on ne fait que reporter devant ces commissions ce que les jeunes disent sur nos différentes plateformes. On est membre d'un comité mis en place par le ministère qui met en œuvre les réformes avec AGICAD. On est dans une synergie et Adam même nous représente au niveau du COS. Donc c'est la voix des jeunes, que ce soit physiquement ou sur les réseaux sociaux. Et quand vous regardez la feuille de route et vous comparez les résultats de notre hashtag, on peut dire que les autorités ont pris en compte les aspirations des jeunes parce que les 6 piliers regroupent en gros tout ce que les jeunes ont exprimé sur les réseaux
sociaux. D'accord, donc vous êtes de plus en plus entendu. Peut-être qu'il faudrait être là au moment où on vote.
C'est ça.
J'ai envie qu'on parle quand même de votre initiative, qui est une initiative un peu singulière puisque vous agissez directement dans les quartiers. Ouais. Expliquez-nous un peu AJCAD.
Alors, AJCAD, c'est l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Et moi, le constat est venu comment ? J'ai vu qu'à l'école, comme à l'université, on n'a aucune notion sur le fonctionnement de notre État. C'est-à-dire les collectivités ou les institutions, on n'a aucune notion là-dessus. Et ça m'a interpellée et j'ai dit, mais pourquoi ne pas expliquer aux jeunes le fonctionnement des collectivités ? Pourquoi ne pas créer une connexion entre les jeunes et les collectivités qui non seulement va être un espace d'apprentissage, mais un espace de plaidoyer et d'interpellation. Et l'autre chose qui m'a interpellée, c'est les caractéristiques même des organisations de jeunes. Parce que moi, j'ai milité dans beaucoup d'organisations de jeunes. On a du mal à faire la connexion entre ceux qui sont partis à l'école et ceux qui ne sont pas partis à l'école. Souvent, au sein de l'organisation, soit tout le monde est parti à l'école ou c'est une association informelle d'un seul secteur. Donc, j'ai dit, mais comment corriger cela? Comment amener une connexion entre nous qui avons été à l'école et ceux qui n'ont pas été à l'école?
Est-ce que vous y êtes arrivé aujourd'hui?
On est arrivé et voilà pourquoi nous avons actuellement 300 clubs qu'on appelle des CLAC, c'est clubs d'action citoyenne. Et dans chaque commune, nous avons un club. Donc nous intervenons dans 300 communes et dans 300 communes, nous avons 300 CLAC. Et chaque CLAC...
Ça mérite qu'on l'applaudisse quand même. Alors, on a des jeunes ici, je vais me diriger, parce que quand on est femme et jeune, c'est la double peine. On n'entend pas beaucoup les femmes dans ce domaine-là. Alors, vous, est-ce que vous connaissiez le CLAC?
Non, je ne connaissais pas le CLAC.
Est-ce que ça vous intéresse, la chose politique?
Oui, parce que je me dis qu'en tant que jeune et en tant que femme, il faut que je m'implique, parce que madame l'a dit, hein, quand on nous dit que nous sommes l'avenir du pays, et c'est vrai, et... Comment est-ce que nous pouvons participer au développement de notre pays, apporter notre touche particulière?
Exprimer vos besoins, vos attentes.
Exprimer nos besoins, nos attentes, donc il faut vraiment s'y intéresser.
Mais alors, comment expliquer que vous n'apparteniez à aucun mouvement? Est-ce parce que vous avez peur? Est-ce parce que vous ne savez pas comment procéder?
Moi, je pense qu'il y a un manque d'information. On n'informe pas les jeunes sur comment ça marche et quand tu veux y adhérer, comment est-ce que tu fais. Nous sommes plus dans une optique où on nous dit que les jeunes, non, vous êtes jeunes, pas de formation, pas d'expérience et tout ça. Donc, il faut rester derrière les vieux. Donc, c'est eux qui ont de l'expérience. Donc, ils vont nous montrer le chemin. En fait, nous, on est plus dans cette optique parce que...
Ils ont du mal à nous montrer le chemin depuis une 60aine d'années. Mais ce qui est...
Je voulais revenir par rapport au club,
oui,
pour rappeler que chaque club est composé de 100 personnes. Mm-hmm. Et il y a une représentation au moins 50% de femmes, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appuyer là-dessus, notamment l'implication des femmes dans les questions de gouvernance.
Alors, comment on rejoint l'AJCAD? Comment on rejoint votre mouvement?
Alors, comment rejoindre l'AJCAD? L'AJCAD est ouverte à tout le monde. Vous adressez une demande d'adhésion au siège de l'AJCAD, à la directrice de l'AJCAD ou au président du conseil d'administration. Au niveau des CLAC, vous faites la demande. Si vous pensez que vous êtes dans une commune et qu'il y a la nécessité de mettre en place un CLAC, vous faites la demande à l'AJCAD. Comment nous procédons? Nous identifions 5 leaders. Très souvent, on les appelle des leaders naturels. Vous allez trouver qu'au Mali, dans les quartiers, souvent, il y a un jeune, il sort, il commence à faire le thé. Minimum, il y a 15 autres qui viennent autour de lui.
Il y a un sujet sur lequel on doit revenir, qui revient à chaque fois où on parle de politique. Monsieur le Premier ministre Moussa Mara, est-ce qu'on peut faire de la politique sans argent? Est-ce que ces jeunes sont capables de faire de la politique quand ils n'arrivent pas à payer leur taxi pour venir à l'école?
C'est très difficile de faire de la politique sans argent, mais l'organisation permet de suppléer une bonne partie de manque d'argent. C'est pourquoi on s'organise en parti politique. Quand les jeunes adhèrent aux partis politiques, on ne leur demande pas d'argent. Ils payent au maximum leurs cotisations. C'est pourquoi il faut inciter les jeunes. Et des initiatives comme ce que Adam fait ou ce que Guindo fait et d'autres, ce sont des initiatives qui permettent aux jeunes de parcourir un peu les étapes qui leur manquent pour arriver au schéma politique. En adhérant dans un parti, on est dans un groupe. On progresse dans le groupe. Et on peut arriver à des postes de responsabilité si on est dynamique et on est entreprenant et si on nous aide un peu.
Oui, mais dans le même temps, ça veut dire qu'ils vont encore entrer dans les mouvements de jeunesse et autres parce que quand ils arrivent, ils ne peuvent pas cotiser. Celui qui a payé, il se taille la meilleure place.
En fait, Guindo a dit quelque chose tout à l'heure. Les jeunes, aujourd'hui, c'est la majorité de la population. Et quand on regarde dans les partis, les jeunes sont aussi la majorité dans les partis. Le problème des jeunes, c'est l'organisation. L'organisation en dehors des partis et l'organisation dans les partis. Si les jeunes arrivent à s'organiser un minimum, je pense qu'ils peuvent influer sur les décisions dans les partis. Mais le sens de l'organisation, c'est quelque chose qu'il faut reprocher à la jeunesse dans notre pays. Et c'est pourquoi il faut soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens d'encourager les jeunes à s'organiser dans les universités, dans les quartiers, à avoir des clubs, afin de pouvoir peser. Je crois que si on est intelligent, on peut arriver à peser, même si on n'a pas d'argent.
Abdoulaye Guindo, j'entendais parler tout à l'heure de la question d'argent, ça avait l'air de vous passionner. Pensez-vous que ce que dit le Premier ministre est possible, c'est-à-dire ne pas avoir de l'argent, mais adhérer et payer sa petite cotisation ?
Au fait, ce que le Premier ministre dit peut être un début de solution, mais je pense que la vraie solution, c'est changer le système politique au Mali, le système de gouvernance des partis. Tant que vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas émerger politiquement. Et on a même l'impression que dans les instances du parti, cette culture est inculquée aux jeunes. Quand vous rentrez dans un parti, il y a beaucoup de militants qui ne payent pas les cotisations. Or, pourtant, ils doivent payer. Mais en retour, ils reçoivent des fonds des leaders du parti. Donc, le jeune se dit déjà, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas prétendre à certains postes. Donc, de façon idéologique, on éduque déjà les jeunes à prioriser l'argent. Et plus grave, je parle sous le contrôle du Premier ministre qui est chef de parti, peut-être qu'il ne le fait pas dans son parti, même dans le choix des candidats sur les listes, aux élections proportionnelles. On ne le dit pas publiquement dans les coulisses, on dit, pour être premier sur la liste, le candidat doit verser 10 millions. Pour être deuxième, le candidat doit verser 4 millions. Donc c'est dit, au fait, dans les coulisses. Donc ce qui fait qu'à la sortie de la composition des listes,
donc le premier jeune,
il se retrouve peut-être 20e sur la liste et il n'est pas élu parce qu'il n'a pas d'argent. Ça, c'est une réalité dans nos partis politiques.
En fait, je vais nuancer un tout petit peu. C'est vrai que sur l'argent, on doit prendre des réformes, on doit faire des réformes pour rendre le poids de l'argent moins déterminant dans notre pays. On doit le faire.
Mais c'est pas tout.
Mais il faut savoir que dans tous les pays du monde, on a besoin d'argent pour faire la politique.
C'est clair.
Ça, je nuance. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai vu moi-même, dans mon parti, mais dans d'autres partis, des jeunes influents, comme Adam l'a dit tout à l'heure. Mm-hmm. Le parti sait qu'il a besoin de ce jeune dans le quartier. Et ce jeune, il n'a pas d'argent. Le parti fait des efforts, même si quelques personnes vont lui donner de l'argent pour qu'il puisse payer la cotisation, afin de pouvoir avoir la place. Donc la chose n'est pas aussi carrée que ça. Les jeunes doivent être organisés, et les jeunes doivent avoir le sens de pouvoir se donner la main afin de s'imposer aux autres. Et moi, je pense que c'est possible.
Mais monsieur le Prince, même cet exemple, il est mauvais. Parce que le jeune, il est influent, le parti a besoin de lui. Les gens lui donnent de l'argent dans les coulisses pour qu'il vienne payer. Donc tout ça, ça ramène au fait que le jeune comprend qu'il faut l'argent pour être dans les... Est-ce qu'on ne peut pas le faire émerger sans qu'on lui donne de l'argent qu'il vienne s'inscrire dans le parti?
Guindo, quand vous faites campagne, je suis désolé, il y a de l'argent, on dépense.
Non, je suis d'accord avec ça.
Voilà.
Mais donc, le jeune qui est influent, on a besoin de lui.
Mais
quand vous lui donnez de l'argent en cachet pour qu'il vienne s'inscrire,
si,
à sa force, les donner.
Non,
donc
force,
le jeune comprend qu'il faut toujours de l'argent pour entrer en politique.
Non, je ne suis pas sûr. Je dis, l'influence compte, l'argent compte. Quand l'influence a un impact qui est supérieur à l'argent quelquefois, on travaille de telle sorte que l'influence et l'argent puissent jouer. Ça, c'est le pragmatisme. Il y a des dépenses qui sont incompressibles. Et il y a un minimum d'équité aussi à demander aux uns et aux autres qui sont candidats de pouvoir cotiser. C'est comme on cotise quand on entre dans un parti. Donc celui qu'on sait qu'il ne peut pas cotiser, parce que pour telle ou telle raison, on l'aide à cotiser parce qu'il a d'autres apports au groupe.
Et c'est là où on rentre dans l'instrumentalisation des jeunes. Le simple fait même d'imposer des sommes d'argent pour les candidats et que nous savons que telle personne pourrait faire notre affaire parce que la personne est connue dans le quartier, dans la commune et tout.
Il organise l'été où il y a beaucoup de monde.
Oui, et on lui donne de l'argent pour qu'il soit candidat. On est en train de l'instrumentaliser. Pourquoi ne pas enlever la notion d'argent? Pourquoi ne pas l'enlever? Pour moi, la cotisation est importante dans le parti parce que ça, même au sein des organisations, que ce soit les associations ou autres, parce que ça prouve que nous avons de l'intérêt. Mais cette cotisation doit être accessible aux jeunes. Si nous disons que pour être candidat, il faut amener 15 millions, de vous à moi, quel jeune peut avoir 15 millions?
Donc,
il ne peut pas.
Donc, la question...
donc du coup, on va le prendre, le président du parti va lui prêter les 15 millions, mais on lui prête de l'argent. Déjà, il est devenu un élément de commerce. Parce que quand tu rentres et que tu es candidat, si tu es élu, tu dois rembourser les 15 millions du président. tu dois ta candidature à celui qui t'a donné de l'argent. Donc tu dois tout à celui-là. Et là où tu es instrumentalisé, tu n'es plus utilisé comme une personne, mais comme une chose. Et c'est ce qui doit s'arrêter. C'est ce qui doit s'arrêter aujourd'hui. Et par rapport aussi aux réformes, très souvent on parle des réformes qu'il faut minimiser le poids de l'argent et tout. Vous savez, on n'a pas de texte au Mali qui dit qu'il faut de l'argent dans les élections. C'est des hommes politiques qui ont introduit l'argent dans les élections. Il faut juste appliquer les textes. Vraiment, il faut qu'on cutte dans... On ne punit pas, au fait. L'impunité a détruit les choses jusqu'à ce que quand on voit des choses, on trouve que c'est normal. Ce n'est pas normal. Nulle part, on ne dit qu'il faut voler, mais les gens volent. Il faut arrêter l'impunité.
Au-delà...
Ça ne sert à rien de faire des réformes pour dire on va arrêter le vol. Le vol n'a jamais été autorisé.
Bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense que Juan Gomez l'a traité il y a quelques jours. Donc, la question est celle de l'argent. Puisqu'on voit que l'argent est très présent dans les partis politiques, dans le monde politique, et que les jeunes n'ont pas d'argent. Monsieur le Premier ministre, c'est quoi la solution?
Très sincèrement, je comprends et Adam et Guindo, mais je vous le dis, moi je ne suis pas connu comme quelqu'un qui privilégie l'argent, donc je suis plus libre pour en parler. Il faut que tout le monde le comprenne, que ce soit aux États-Unis ici ou au Kenya, la politique a besoin d'un minimum d'argent. Maintenant, dans notre pays, nous n'avons pas suffisamment de dispositifs pour arriver à un système de financement, on va dire plus sain, de la vie politique. Dans les grands pays, c'est le peuple qui finance la vie politique par des petits dons de 5 000 francs, de 2 000 francs, de 100 francs. Dans notre pays, la citoyenneté et la connaissance politique n'est pas suffisante. Donc ça fait que les partis politiques sont tributaires soit de l'État, à travers le financement public, soit de puissances occultes cachées qui les lie une fois arrivés aux responsabilités. C'est ça qu'il faut qu'on change. Il y a des réformes à apporter. Mais au-delà de ces réformes, il y a un minimum qu'il faut qu'on arrive à instaurer afin que le peuple, les jeunes, les moins jeunes, comprennent que la vie politique doit être soutenue par des petits dons avec un plus grand nombre. Là, on aura un système beaucoup plus pérenne, je dois dire.
Alors, on arrive presque à la fin de ce magazine. J'ai envie de poser la question aux deux jeunes, deux plus jeunes, parce que vous êtes jeune aussi, monsieur le Premier ministre. Ici, je fais office de doyen. Est-ce que vous avez une solution? Comment faire pour que vous participiez de façon plus forte à la politique? Je commence par Adam Diko.
Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé d'être tous politiciens, de s'engager tous dans la politique. Nous pouvons contribuer à la vie politique, à la vie publique, sans pour autant être politicien. Ça, c'est un premier aspect qu'il faut noter. Le deuxième aspect, c'est que j'encourage vraiment les jeunes à s'organiser. Adhérez au parti politique si vous pensez que ça partage votre vision et autres. Mais quand vous adhérez, n'allez pas dans les sections de jeunes. Allez-y dans les bureaux exécutifs. Imposez-vous.
La dernière question pour Abdoulaye Guindo. Pour vous, qu'est-ce que les jeunes qui vous écoutent, qui sont nombreux ici dans cette salle, ils sont plusieurs centaines, peuvent faire pour influer sur la gestion de la cité? Adhérer au parti politique ou bien vous rejoindre sur les réseaux sociaux?
Au fait, la politique, comme Adam l'a dit, c'est la gestion de la cité. On peut prendre part à la gestion de la cité sans adhérer à un parti. Ce que les jeunes doivent retenir, c'est qu'ils doivent comprendre que la première institution de tout pays, c'est le citoyen. Et le citoyen malien étant en majorité jeune, mettez dans votre tête que vous êtes la première institution de votre pays. Vous êtes plus puissant que le président de la République, le premier ministre, l'Assemblée, si vous organisez et si vous changez d'idéologie en comprenant que ce n'est pas en faisant la courbette aux hommes politiques, mais c'est en prenant votre destin en main que vous pourrez vous imposer politiquement.
Voilà, on va terminer là-dessus. Malheureusement, le temps n'est pas extensible. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur. Merci, Adam Diko, d'être venu ici. Et je vous demande de les applaudir. Merci à vous de vous être déplacés. Bon courage. Et on espère que vous allez vraiment prendre votre avenir en main, puisque vous êtes l'avenir et l'avenir, c'est aujourd'hui. Merci à vous. Bamako, le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul, Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Au revoir Bamako! Religion du